dans la rue.
Avant laquelle ?
Vous tournerez à gauche, au bout de l'avenue.
Dans la rue 2.
Alors, nous sommes sur la place Louis Pradel, en plein centre-ville de Lyon, devant l'Opéra, la place que les skateurs se sont appropriés depuis presque 25 ans. Et on est ici justement parce que moi j'ai une connexion très forte avec cet endroit. J'ai pas commencé à skater ici parce que c'était en travaux encore à l'époque, mais j'ai commencé ma carrière de vidéaste ici. C'est ici que j'ai réalisé mes premières vidéos de skate sur la scène lyonnaise.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette place? Pourquoi elle plaît aux skateurs?
Il faut savoir que dans le monde entier, il y a dans toutes les grandes villes, il y a un spot comme ça, une place publique que les skateurs se sont appropriés parce que c'est à la fois parce qu'elle est idéale pour le skate et puis surtout elle est en centre-ville, elle est bien placée. C'est pas comme un skatepark excentré super loin dans un parc où justement il n'y a pas ce bouillonnement urbain. Voilà, le skate se nourrit de l'énergie aussi de la ville. Il a besoin d'être au cœur de la ville, de toute cette énergie et c'est important d'avoir un endroit comme ça.
Mais cette place-là, elle a un potentiel pour le skate. Qu'est-ce qu'il est possible de faire?
Bah ouais, c'est très grand. Il y a toute l'aire de ce qu'on appelle l'aire de flat, voilà, qui permet de se déplacer. Il y a tous les bancs. Il y a un peu la notion de skatepark parce qu'il y a quand même la pyramide. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle un spot naturel qui n'a pas été conçu pour le skate. Et c'est vrai que les skateparks, c'est super bien. C'est important d'en avoir, mais c'est presque des lieux d'entraînement sportif, alors que le skate, lui, il y a toute la part de créativité, s'adapter au milieu urbain, s'adapter au mobilier, et puis justement le détourner de sa fonction première, ça, c'est super intéressant dans le skate, et c'est une dimension qui est capitale.
Et d'aller là aussi où on nous a pas invité, ça joue ça?
Bah tout à fait, il y a ce côté de liberté, tu joues avec l'espace urbain, c'est vrai que les villes sont pas vraiment, ont pas été conçues comme des espaces de jeu, c'est la notion de ville récréative, c'est assez contemporain, c'est très important et on se rend compte que voilà, il y a pas beaucoup d'espaces de jeu dans les villes, à part pour les enfants, dans des parcs fermés, des aires vraiment délimitées. Et depuis quelques années, il y a eu plein de sports un peu farfelus qui se sont développés, le golf urbain, enfin des choses où les gens ont besoin d'amener du ludique dans la ville, c'est une dimension qui manque. Et le skate, c'est une des activités qui est idéale pour ça, qui est la mieux placée, qui représente en tout cas la notion d'amener du jeu dans la ville.
Et cette place-là, on voit, elle commence à être en travaux, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors oui, il y a un projet de rénovation de la place, et donc la volonté affiché au départ, c'était de la part des politiques, c'était plus de skate. Le skate, c'est banni, ça sera terminé. On refait la place à neuf, elle va être toute fraîche. Fini les skateurs, on ne va pas dépenser de l'argent pour venir tout abîmer derrière. Et donc, il y a eu une forte mobilisation de la part de toute la communauté skate à Lyon. On s'est mobilisé fortement. Et donc, au final, on a inversé la vapeur et la place va être réparée à neuf, toujours en gardant l'idée de garder la pratique du skate. Donc on a décidé de quel matériau il fallait mettre pour le sol et tout, donc c'est bien. On a réussi à démonter l'idée reçue que le skate a abîmé toute la place. Alors le skate, c'est sûr que ça contribue à user, il y a la friction sur les bancs et tout, mais tout le monde pense que le sol il est détérioré, il est tout cassé à cause du skate. Et nous, on a réussi à démontrer l'inverse. Et avec les différentes réunions, les services techniques ont bien reconnu que oui, effectivement, c'était avant tout dû à des défauts de conception à l'époque. Et puis tous les matins, il y a les véhicules de nettoyage qui passent, qui pèsent 2 tonnes. Donc on est arrivé avec des choses bien précises et qui étaient imparables, quoi.
Et alors toi, tes souvenirs de cette place, c'est surtout des souvenirs de vidéaste plus que des souvenirs de skateur?
Oh, c'est les deux, parce que moi j'ai à la fois skaté ici et puis je skate toujours d'ailleurs. Là, je suis venu skater une dernière fois là, parce que ça y est, c'est en travaux. Par contre, j'ai passé des millions d'heures, des millions, je pense qu'on peut dire ça, à documenter, filmer les skateurs lyonnais, parce qu'il y a toujours une scène super importante, super, avec des mecs très forts. Plein de gens sont devenus professionnels, qui le sont toujours aujourd'hui à passer 40 ans. Et voilà, pour moi, à l'époque, j'ai commencé à filmer en 94. Et voilà, je trouvais qu'il y avait une énergie qui se devait d'être documentée et d'être soutenue pour être mise en lumière. Et ça a aidé à développer des carrières pour des skateurs, à mettre Lyon sur la carte en termes de skate. Et ça fait partie de mon travail.
Bon, du coup, on te laisse skater pour la dernière fois ici sur cette place.
Je crois que c'est le matin, je vais pas faire des grosses cascades et puis j'arrive sur mes 44 ans donc je skate toujours et puis ça fait du bien, j'ai mes petites figures à moi, voilà, en faisant attention à pas me faire mal.
Le mieux ici c'est cette pyramide.
Ouais, je vais faire un petit tour sur la pyramide, ouais, c'est clair. Allez, on va faire un micro-embarqué. Ça, c'est le son typique de la place actuelle. Et c'est plus très rigolo à skater. Donc vivement que ça soit tout neuf et tout lisse. Moi, le skate, ça fait, je crois que c'est en CO2 que je me suis mis au skate. Il y avait des planches en plastique à l'époque. Il y a un copain dans ma classe qui en avait un et qui... Je sais pas pourquoi on a fait un pari que j'ai gagné, et si je gagnais, je gagnais un skate. Donc c'est comme ça que c'est venu, on faisait de la descente et tout, puis un jour j'ai vu un mec passer en haut de ma rue avec un skate américain, enfin un gros skate, et qui a fait un ollie, qui a monté un trottoir, et j'ai halluciné, j'ai fait « Ah mais qu'est-ce que c'est ?» C'était magique quoi, c'était génial, et du coup je me suis dit « Bah voilà, je veux faire du skate comme ça, du skate debout. » Et voilà, c'était le virus absolu quoi, c'était... J'étais pas bien à l'école, je comprenais rien à la vie, tout était flou. Et puis le skate, moi, c'est au-delà de la pratique, voilà, ça m'a fait rencontrer plein de gens, toute une énergie, de l'énergie créative, ça m'a extrait de tout un marasme un peu flou, tout bizarre, un peu dark. Et voilà, c'était de la lumière quoi, vers la vie, et c'était vraiment très puissant. Quoi. Et c'est pour ça que à 44 ans, je fais toujours du skate, ouais. Et que c'est mon métier.
Est-ce que les sensations sont les mêmes que quand t'as commencé ou vraiment à tout début? Aujourd'hui, quand tu montes sur un skate, est-ce que les sensations sont les mêmes?
J'ai envie de dire que j'ai eu une période creuse entre 30 et 40 ans où j'étais un peu plutôt en train de lâcher, à me dire bon, c'est plus de mon âge, je suis trop vieux, c'est trop fatigant, il y a trop de risques de blessures. Et puis passé 40 ans, où là on se dit ah, c'est peut-être si je veux en refaire, c'est un peu le dernier moment. Et puis finalement, bah, les sensations reviennent, le feeling de départ, il est à nouveau là, de réapprendre des figures, de faire une activité qui est improbable à cet âge-là et tout. Finalement, c'est génial en fait. Ça fait du bien, ça fait se sentir vivant.
Alors là, on est devant le Bal des Ardents. Pourquoi tu as voulu nous emmener là?
Parce que j'aime bien traîner dans les librairies, aller voir les livres de photos. Parce que maintenant, en plus de mon activité de vidéaste, au fil des années, j'ai développé mon activité de photographe qui maintenant est devenue mon activité principale sur laquelle j'investis le plus de temps et qui me passionne le plus. Et pour parler photo, je pense que c'est un bon petit endroit. Là. Déjà, regarde, on n'est même pas encore entré qu'en couvert à l'extérieur. Là, je vois un livre de la couverture, c'est le Jean Loussieff, le photographe. C'est une très belle photo. Prise au café de Flore à Paris, et d'ailleurs je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment dans mon style photographique, du noir et blanc très graphique, un tout petit personnage là-bas qui traverse la rue. J'adore cette photo et ce genre de photographie.
Et ben on rentre.
Allez, c'est parti. À Brassailles aussi, plein de choses. Moi, je suis tout de suite très rapidement attiré par le noir et blanc, les couvertures graphiques. C'est...
Parce que toi, tes photos, c'est essentiellement en noir et blanc.
Oui, à 95%, c'est du noir et blanc. C'est le contre-coup de ce que je faisais avec la vidéo dans le skate. Et pour les marques, c'est voilà, du travail plutôt commercial, en couleur, sportif. Et donc... Moi, la photo, c'est tout l'inverse. C'est la dimension artistique, en noir et blanc, pas de grand angle, des plans pris de très loin, replacer le skater dans son environnement urbain. Pour moi, j'avais besoin de cet équilibre, en fait. Et alors, je repère un livre. Je suis en contradiction totale avec ce que je viens de dire, mais celui-ci, là, avec un œil, et je t'en parle parce que c'est Ed Templeton, le skater professionnel des années, qui a été connu à partir des années 90. Et j'ai beaucoup filmé avec lui en Californie. Et c'est lui qui a été mon mentor un petit peu justement en photographie parce que j'ai commencé à faire de la photo comme ça, avec un instinct, un feeling. Et lui, en voyant mes premières photos, s'est dit « Ah, oh, toi, je... » Parce qu'il savait que j'avais pas de culture photographique, je connaissais rien du tout à part des photos de skate. Et donc, j'ai voyagé avec lui et il m'a emmené dans des librairies spécialisées photos. Et puis, il m'a dit, voilà, tiens, regarde Cartier-Bresson, Koudelka. Voilà, il m'a orienté sur tout un style, tout un genre photographique qui m'a instantanément parlé, où je suis tombé en amour avec tous ces grands photographes. Et voilà, il a joué un rôle important dans mon cheminement photographique, ouais.
Et là, du coup, c'est un bouquin qu'il a fait?
Ouais, ça c'est. En plus, c'est chez le même éditeur de mon premier livre que j'ai sorti là il y a 2 ans.
Et qu'est-ce qui te plaît toi dans ces images?
Moi, j'ai toujours aimé son approche. Enfin, il a beaucoup documenté le skate, mais pareil, lui, ce qui l'intéressait, c'était les à côté. C'était l'ambiance autour du skate. Jamais il fait de photos de skate. Pour moi, ça a été aussi comprendre l'importance de ne pas se focaliser que sur l'action, en fait. Parce que c'est vrai que moi, au départ, c'était ce que je faisais. Et j'étais que focalisé là-dessus. Et après, se rendre compte de tout l'intérêt de regarder autour, ce qui se passe autour avec le skate, le côté culturel, les ambiances.
Il n'y a pas ton bouquin, toi ?
Il est peut-être quelque part. Si, il doit être quelque part. Je ne sais pas où.
Qu'on n'essaierait pas de le trouver.
Morten. Fred. Comme ça ? Ouais. Normalement, il y en a encore, il me semble. Il est peut-être dans un autre rayon. Hein.
Non, il est en... Ah oui, il est en street art.
Ah, voilà.
ouais.
Hop.
C'est pour ça.
Bien en vue, côté de JR, très bien.
Est-ce qu'on peut le feuilleter un peu ?
Bien sûr. Voilà, donc c'est un livre tout en noir et blanc, qui n'est pas que du skate, c'est un mélange de le skate, c'est la trame principale, mais après, il y a pas mal d'autres choses sur l'urbain, l'architecture.
C'est où ça ?
Ça, c'est aux Canaries. C'était, alors, la plupart de mes photos sont prises pendant mes voyages de skate. Et moi, quand je pars en trip skate, je dors pas beaucoup en fait. Je me lève très tôt avant tout le monde pour aller faire des photos le matin. Et puis après, tout le reste de la journée, on va shooter du skate. Et puis même des fois la nuit, je repars en mission. Je shoote pas énormément à Lyon. J'optimise le temps à max.
Du coup, ce qui t'intéresse, c'est aussi les jeux de lumière sur l'espace urbain, les lignes aussi qui traversent l'espace urbain, c'est ça ?
Oui, j'ai vraiment une attirance très forte pour tout le côté graphique, les jeux de lumière, les diagonales qui sont créées par les ombres, tout l'urbain, le béton, l'architecture brutaliste, moderniste, c'est ce qui attire mon œil instantanément.
Est-ce que tu peux juste nous raconter l'histoire d'une ou deux photos ?
Il y a la couverture du livre, c'est sur un site industriel au sud de Lyon, dont je tairais l'endroit et le lieu. C'est en gros, c'est une entreprise industrielle et il se trouve que sur leur terrain, il y avait des énormes pipelines, des énormes tubes cylindriques qui sont super pour skater. C'est la courbe, c'est un... Voilà, en termes de skate, c'est ce qu'on retrouve dans les skateparks. C'est comme ça qu'a commencé le skate, avec les piscines en Californie, à Los Angeles, quand les skateurs étaient en mal de vagues, justement. Et donc... trouver des spots comme ça, naturels, improbables, qui sont pas du tout conçus pour le skate, mais qui sont parfaits et qui en plus sont ultra photogéniques et très beaux. C'est toujours la quête du Graal quoi, dans le skate. Et donc il y avait ce spot où il fallait y aller le dimanche, passer sous des grillages, pas se faire choper. Et puis là, on y allait un jour où tout était magique. Quoi. La lumière était belle, le skateur était motivé, on a fait des super images. Quoi. Et une autre, alors on va prendre quelque chose qui ne soit pas du skate. Ça, c'est une photo de 2013. J'ai shooté à Lisbonne, justement en me levant tôt un matin. On a un businessman qui passe avec son attaché caisse. Il est caché derrière un poteau, on voit pas son visage, c'est un peu mystérieux. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est très minimaliste, il n'y a pas de pollution visuelle, de choses qui peuvent nous dire à quelle époque on est. Moi, mon travail consiste beaucoup à perdre le spectateur dans les époques. C'est pour ça que j'utilise le noir et blanc. J'aime bien créer des photos comme celle-ci où on peut penser qu'on est en 1960, là, au Brésil, par exemple. Enfin, c'est à la fois une manière de pointer du doigt la mondialisation qui uniformise un peu tout le monde et que tu peux aller au Brésil ou au Japon et puis en fait faire des images assez similaires. Donc c'est pas tant que j'aime le principe, mais plus peut-être pour le pointer du doigt, oui. Après, je parle pas toujours très bien de ma photographie. C'est peut-être que je fais de la photo parce que c'est une manière plus fluide pour moi de m'exprimer en image, je pense. Ouais, ça fait depuis pas si longtemps, je commence à comprendre en fait ce que je fais avec mon travail photo.
Et c'est arrivé comment ?
C'est en essayant de l'organiser, en essayant de, enfin, à force de voilà travailler dessus, faire des expos, mais surtout d'être sur le terrain, shooter, pourquoi je shootais ça, pourquoi je suis attiré par tel truc. Et je pense qu'il y a un côté addictif à la photo où il y a une sorte de thérapie en fait dans la pratique. C'est très, très introspectif, tu commences à beaucoup réfléchir sur toi-même, pourquoi tu es attiré par ça, donc ça te fait écho sur ton histoire personnelle. Et puis tout commence à prendre du sens. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, mon travail en dit beaucoup en fait, sur qui je suis, sur ma personnalité et voilà, tout ça. Et si c'est quelqu'un qui veut s'intéresser à mon travail dans son ensemble, pourra venir déceler des traits de personnalité, des choses qui sont propres que à moi.
Est-ce que l'image du skate a beaucoup changé pour toi, a beaucoup évolué depuis tes débuts à toi?
Il y a les deux côtés, je trouve. Ça a à la fois beaucoup changé, c'est beaucoup plus apprécié, beaucoup plus respecté, beaucoup plus compris. Il y a quand même, on le sent quand même dans la rue, il y a toujours des fois des échanges compliqués avec des gens qui sont là, vous faites du bruit, vous nous dérangez, allez travailler au lieu de vous amuser, de rien faire. Ah ben mais je travaille monsieur, je paye des impôts comme vous. Ben non. Bref, il y a toujours des situations un peu ridicules. Et puis après, le regard de la société a quand même changé sur le skate. Je pense que de l'extérieur, on se rend quand même plus compte de la richesse que procure le skate, enfin tout ce qui se passe dans ce milieu, le côté créatif qui s'en dégage. Après, il y a beaucoup de marques de luxe qui se sont réappropriées l'image du skate, mais ça...
Justement, est-ce que c'est pas too much?
Je trouve pas que c'est too much. Moi, j'ai fait un film pour Hermès, ils voulaient faire une commande avec des skateuses. Et j'ai fait ça en me disant, de toute façon, autant bien le faire plutôt que ça soit mal fait par des gens qui connaissent pas le skate. Et donc, si c'est bien fait, ça contribuera à faire rayonner le skate et à lui donner une bonne image. Donc, moi, je suis pas contre ce truc. Et justement, ça a plutôt changé de manière positive. Ouais.
Tu trouves pas que ça peut paraître hypocrite de la part de grandes marques et comme ça de dire, on veut se servir du skate pour promouvoir des choses qui n'ont rien à voir avec l'identité et l'essence de ce sport?
Oui, c'est toujours hypocrite. C'est juste dans un but strictement de business, commercial. Mais après, nous aussi, on peut en tirer quelque chose. Faut jouer avec le truc. De la même manière que le skate est au JO maintenant, les skateurs ont toujours été contre l'idée d'avoir le skate aux Jeux Olympiques. Et puis maintenant, de toute façon, ça va se faire. Donc maintenant... on en joue aussi, du coup ça devient un argument pour justement quand on va voir les métropoles et les villes. Il y a les JO, il va y avoir beaucoup plus de skateurs et il va falloir pas se les mettre à dos maintenant et justement réfléchir en amont à comment les intégrer au mieux. Moi j'ai toujours dit dans la vie il faut s'adapter. De toute façon le skate c'est ça, on s'adapte au terrain, on s'adapte au milieu, c'est qui est toujours différent. Et c'est une des choses que j'ai la plus importante que j'ai appris dans le skate, s'adapter. Alors on arrive à Wall Street là et je vois qu'il y a mon copain Fernando, espagnol. Okay. Hola. Hey, ça va, ça va. Pas ça. How are you?
Hello.
Good.
Yeah.
Ça va. Tu parles pas français? Si, tu parles un petit peu français. Fernando Elvira, il est espagnol, basque même.
Basque.
Basque, basque, basque. C'est un skateur avant tout, comme moi depuis toujours, passionné, un esprit créatif. Tout foufou, tout en couleur. Lui, il est dans un truc très concret. Il fait du découpage avec des ciseaux, des matières colorées, des choses qu'il récupère. Il fait plein de choses, plein de choses.
We're gonna paint a couple murals inside the mini ramp. Yeah,
easy.
It's a play, yeah, more like a job.
And you know what you're gonna do?
No.
On va voir l'intérieur.
Alors ici, ce qui est particulier, ce qui est marrant, c'est que le skate shop est tout neuf. Donc ils ont même pensé à des spots de skate pour pouvoir skater quand l'hiver, quand il pleut. Donc à la fois, il y a un petit rebord là, mais il y a surtout la mini-rampe au fond. Les skateurs, voilà, ils sont à fond. Tout ce qu'ils peuvent favoriser la pratique, pas de limite. Ça va, Ben?
C'est une de tes photos, là, non?
Ouais, c'est une de mes photos sur la place Louis Pradel, justement, que j'aime beaucoup parce que là, les prises depuis un immeuble en hauteur, depuis très loin du spot, et on a très peu de photos comme ça.
Là, je suis en train de gripper ma planche, petite nouvelle planche. L'ancienne était un peu morte, et du coup, pour aller retourner skater ce week-end. Là.
Est-ce que tu peux nous raconter où sont tes spots à Lyon?
À Lyon, hôtel de ville, ouais, pour la plupart du temps. Et après, un peu à droite, à gauche, un peu partout dans Lyon, ouais. Pas mal en street, ouais. Charpène en ce moment, que les fontaines sont encore vides. Et puis, il peut être justice un peu.
Et hôtel de ville, qu'est-ce que ça a de particulier pour toi?
C'est l'histoire du skate lyonnais, quoi. C'est Le spot est incroyable, c'est super dur à skater, mais quoi, le spot est pété depuis longtemps et c'est juste ce qui rendait le charme du spot, quoi. Puis y a tous les potes sont là-bas et ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Ça va, Flo? Ouais, tu vas bien?
Okay. Yes.
Ouais, je fais pas les checks, moi. Moi, je suis trop vieux. Ouais, à chaque fois, et en plus, ils ont tous des checks différents. Alors t'es là, ah, ah zut, moi je serre la main. Je suis des années 90. Hein. Ciao tout le monde, à plus. À bientôt.
Quel souvenir t'as d'un spot vraiment particulier, un spot de skate vraiment ouf?
Je suis plutôt à dire que tout est bien, en fait. Je m'adapte à tous les endroits. Il y a toujours un intérêt, en fait. C'est comment dénicher le côté positif d'un endroit. Donc, de la même manière, en photo, maintenant, les conditions sont toujours idéales pour faire la photo, qu'il fasse gris ou qu'il fasse très beau ou qu'il pleuve. Et en fait, c'est toujours cool. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc, c'est plutôt comment je m'adapte à ça et qu'est-ce que j'en tire, en fait. Après, il y a plus globalement, tu as Barcelone qui est génial parce que c'est comme un énorme skatepark naturel. Il y a des spots partout. Il y a plein d'endroits avec des plans inclinés. Ça, c'est pareil, c'est comme le plan incliné, comme la courbe. C'est des choses intéressantes dans le skate. Et il se trouve qu'il y en a partout à Barcelone. Et voilà, c'est un terrain de jeu vraiment idéal, qui est super bien. Et c'est la capitale du skate en Europe, quoi. Et presque même dans le monde, ouais.
Plus miser sur les États-Unis, je sais pas pourquoi, c'est totalement un a priori.
Les États-Unis dans l'absolu, c'est bien, sauf que en fait, moi j'ai toujours rêvé quand j'étais ado, c'était le rêve d'aller en Californie. Et puis au bout de plusieurs années, quand j'y suis finalement allé, c'était la désillusion, j'étais dégoûté, je trouvais ça nul parce que tout est compliqué, c'est trop grand, faut prendre la voiture tout le temps, tu peux pas juste te déplacer en skate comme à Lyon où justement c'est pas trop grand et ça c'est cool. Et puis surtout, tu te fais virer tout le temps, quoi. Il y a les flics, les gardiens, les machins. C'est constamment le jeu du chat et de la souris qui est très fatigant, qui est pas rigolo. Moi, quand je filmais des vidéos pour des marques aux États-Unis, on filmait beaucoup la nuit jusqu'à 4h du mat, 5h du mat parce que sinon la journée c'était trop compliqué. L'Amérique, le pays de la liberté, mon cul.
Où est-ce que tu nous emmènes pour terminer?
On va remonter la rue, on va aller à la Bazar Boutique Blitz, parce qu'il y a ma copine qui fait une petite expo en ce moment, et elle a fait une installation que je trouve super intéressante. Alors je vous dis rien, je vous emmène, et ça va être la surprise. Bonjour David.
Hello.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Pas bien.
On monte le petit escalier colimaçon. Alors voilà, on est donc c'est l'expo actuelle, c'est ma copine qui expose, Stéphanie Argentier, et pour son exposition qui s'appelle l'histoire de l'œil. Donc vous voyez, vous voyez pas dans votre radio, mais il y a des yeux partout qui nous regardent, et il y a surtout, voilà, je voulais vous montrer cette petite installation, la cabane œil.
Est-ce qu'on peut rentrer dedans?
Ouais, bien sûr, oui, c'est le but, c'est fait pour, c'est une cabane. Ouais. Oups. Bienvenue dans la cabane à œil. Je voulais venir ici parce que j'aime bien cette idée, en fait, qu'elle a eue son idée, ce qu'elle aimerait bien faire avec cette cabane, c'est la placer justement dans l'environnement urbain, dans le but de proposer voilà, ce genre de petite respiration urbaine, petite pause dans tout le chaos de la ville, quoi, ou l'intensité en tout cas. Et d'avoir une petite cabane comme ça où t'es à l'abri, tu peux venir lire, te reposer, méditer. Moi, je suis assez sauvage, en fait, dans mon approche de la ville. J'aime bien justement rester en retrait.
C'est drôle parce que depuis le début, tu nous parles de l'intensité de la ville.
Ouais, la ville est très intense et j'y contribue avec le skate. Et puis, elle est importante, cette intensité. Je disais qu'on en a besoin, c'est important. Mais en même temps, toujours le besoin de trouver un équilibre et pas être que là-dedans. La vie, c'est aussi, c'est bien quand c'est calme, quand c'est doux. dans mes photos, j'essaye d'apporter beaucoup de douceur, une approche voilà, sensible. Moi, j'aime bien justement vivre la ville un petit peu de façon détournée, passer par les petites ruelles derrière, plus calme. Dès que c'est trop intense, je suis à la limite de la crise d'angoisse. Je pense que ça vient aussi de mon côté avec le skate, le fait de toujours explorer la ville dans tous ses recoins et puis se rendre compte que ah oui, il y a des petits endroits en fait, on est tranquille, on fait ce qu'on veut, on dérange personne. Et la photo, c'est ça aussi, je suis toujours en train de fouiner des endroits, des ambiances. Et c'est quelque chose, ouais, qui est important, je trouve, de pouvoir s'extraire de toute cette énergie tout en y étant en fait. Mais juste pouvoir se créer ses petites ambiances, son petit univers et pas faire que subir le bruit, les gens, les pigeons, les trucs.
Si tu pouvais la mettre quelque part, cette cabane œil à Lyon, tu la mettrais où ?
Ouais, bonne question. Essayez d'y réfléchir. Elle avait installé une première fois sur les bords de Rhône, vers le parc de la Tête d'Or, dans les arbres, à côté du fleuve. C'était pas mal, c'était assez calme. Faut pas que ça soit. On ne mettrait pas sur la place plus près d'elle, par exemple. Ça serait un peu en décalage. Tu subirais quand même un peu le truc, mais c'est. À la fois, oui, ça peut aller très bien dans des espaces urbains un peu en marge, ou même carrément dans la nature, quoi, aussi.
Dans la rue 2. De...